Comment fonctionnent nos cellules? Un nouveau biosenseur fluorescent permet de suivre l'activité de la protéine Aurora A lors de la division cellulaire et au-delà. Mis au point par des scientifiques rennais de l'JDR, il éclaire les modes d'action de cette protéine avec en perspective le développement de nouveaux traitements anticancéreux. Marc Tramier, ingénieur de recherche au CNRS, et Julia Bertolin, chercheuse au CNRS, nous parlent de leurs recherches.
Le Labomatique,
l'émission scientifique.
Même si c'est un mot que nous entendons partout, savons-nous vraiment ce qu'est une protéine ?
Alors, en gros, une protéine, c'est les produits de nos gènes. Donc, on a tous des gènes qui sont dans l'ADN de nos cellules. Dans toutes les cellules, on a de l'ADN. Et cet ADN, c'est une sorte de matrice, une sorte de moule à gâteau, pour synthétiser, pour créer des protéines qui sont les effecteurs de toutes les fonctions de nos cellules. Donc on a besoin de l'ADN pour créer les protéines, on a besoin des protéines pour faire toutes les fonctions dont une cellule et notre corps ont besoin.
Alors, la protéine, c'est l'élément, c'est un des éléments, bon, il y a aussi un peu les lipides, mais la protéine, c'est l'élément de base du, c'est un des éléments de base du vivant. Et en particulier, il y a des protéines pour aider à l'architecture de la cellule, il y a des protéines pour organiser des récepteurs aux membranes des cellules, il y a des protéines cytosoliques qui ont des activités biochimiques particulières pour pouvoir avoir des fonctions biologiques. Il faut comprendre que dans nos cellules, en fait, on a majoritairement des protéines, en plus de ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'ADN, les lipides, les membranes.
Aurora A est une protéine, certes, mais pas n'importe laquelle.
Alors la protéine Aurora A, c'est ce qu'on appelle une protéine kinase. C'est une protéine qui a la fonction de pouvoir modifier d'autres protéines par phosphorylation, c'est-à-dire en rajoutant un phosphate sur les acides aminés qui sont les petites séquences des autres protéines, ou d'elles-mêmes d'ailleurs, parce qu'en fait il peut y avoir autophosphorylation des protéines par elles-mêmes. Mais grosso modo, la fonction, c'est une fonction kinase. Donc ça, on va dire, c'est la fonction de l'activité biochimique de la protéine. Ensuite, nous, on cherche à caractériser en quoi est-ce que cette fonction d'activité biochimique, à quoi elle va servir dans la cellule. Parce qu'à quoi ça va servir de mettre des phosphates sur les protéines. Donc il y a souvent des grands réseaux de signalisation, c'est-à-dire que quand on va rajouter un phosphate sur une protéine, on va lui changer un peu sa fonction et son rôle. Et donc on a comme ça des organisations de réseaux entre protéines qui font que quand on va modifier une protéine, elle va changer de fonction à l'intérieur de la cellule et ainsi de suite.
C'est quand même bien fait.
La fonction de base, on va dire la fonction biochimique de base, c'est sa fonction kinase, le fait de pouvoir rajouter un phosphate sur d'autres protéines. Ensuite, Aurora, elle a été décrite comme étant une protéine essentielle dans le déroulé de la division cellulaire. C'est-à-dire que Aurora intervient au moment de l'entrée en mitose, c'est-à-dire de l'entrée de la cellule qui va commencer à se diviser. Et puis, elle intervient dans d'autres rôles comme, par exemple, la stabilisation du fuseau mitotique ou la mise en place du fuseau mitotique.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Le fuseau mitotique, c'est une structure qui permet, au cours de la division cellulaire, de pouvoir séparer les chromosomes en deux parts égales. C'est constitué, le fuseau mitotique, il est constitué de deux centres organisateurs qu'on appelle des centrosomes, duquel vont nucléer des structures qu'on appelle des microtubules, qui sont des espèces de grandes spaghettis. Et ces grandes spaghettis viennent accrocher l'ADN, qui est à ce moment-là sous la forme de chromosomes. Et c'est sous cette forme-là qu'on va pouvoir ensuite tirer les chromosomes en part égale vers les deux cellules filles qui vont repartir en fait avec les deux centrosomes qui sont les centres organisateurs de ce fuseau mitotique. Donc pour créer ce fuseau mitotique et pour faire fonctionner ce fuseau mitotique, la protéine Aurora a été décrite comme étant essentielle. C'est-à-dire que si on enlève la protéine Aurora, on a des malformations du fuseau mitotique et on a des divisions cellulaires qui se passent mal.
Ah, c'est con ça.
Ouais, surtout pour nous. Ouais.
Mais alors quel est le lien entre la protéine Aurora A, le fuseau mitotique et certains cancers.
On a d'autres indications pour penser que la protéine Aurora A est impliquée dans les cancers, parce qu'en fait, dans certains cancers, cette protéine est surexprimée. Et donc, c'est un marqueur de caractérisation d'un certain nombre de cancers. Aurora est aussi impliquée dans ce qu'on appelle le mitotic checkpoint, qui est le moment où la cellule va dire « Ok, c'est bon, tout est bien accroché, les chromosomes sont bien accrochés, et on va pouvoir démarrer la division de la cellule. » C'est-à-dire qu'on va pouvoir ségréger et séparer correctement les chromosomes.
Soyez attentifs, regardez bien.
C'est parce que l'activité kinase d'Aurora à ce moment-là est requise pour phosphoryler d'autres protéines qui elles-mêmes vont être impliquées dans des signalisations particulières pour dire à la cellule « Ok, c'est bon, on peut y aller. »
Ne bougez surtout pas, Madame Frangin, c'est le moment délicat.
Et donc, on pense que quand il y a surexpression de la protéine Aurora A, en fait, les cellules vont plus facilement passer ce mitotic checkpoint et donc, du coup, vont faire des divisions qui sont mal assurées. Et en particulier, mal assurées dans le sens que le mitotic checkpoint, il s'assure aussi qu'il y a une bonne réparation de l'ADN et des chromosomes qui ont été dupliqués. Et donc, s'il y a une mauvaise réparation de l'ADN, c'est-à-dire que l'ADN va être muté, il va y avoir de la mutation dans l'ADN, et les mutations sont des facteurs de risque très importants de survenue de cancer. C'est pour ça, par exemple, que c'est pas génial qu'il y a beaucoup de risques environnementaux qui génèrent du cancer, justement parce que les risques environnementaux, ça, c'est mutagène, ça va donner des mutations dans l'ADN, donc ça va générer des mutations qui sont pas très bonnes et ça va créer des cancers. De la même manière, la surexpression d'Aurora A est un marqueur du fait que probablement, à ce moment-là, on a mal contrôlé en fait la réparation de l'ADN au moment de la division cellulaire, et en contrôlant mal cette réparation, on est mutagène et donc on a plus de chances de survenue de cancer.
C'est un peu compliqué d'en expliquer le fonctionnement, mais si je résume, ça donne à peu près ça.
Ça crée des cellules avec des mutations dans l'ADN, et donc des mutations dans l'ADN, c'est-à-dire des mutations dans les protéines, c'est ce que disait Julia au début, puisque l'ADN, en fait, c'est le moule à gâteau des protéines, et donc si j'ai des protéines qui fonctionnent mal, c'est-à-dire que j'ai des cellules qui fonctionnent mal, et si j'ai des cellules qui fonctionnent mal, à ce moment-là, c'est la survenue d'un dysfonctionnement qui résulte en génération de division anormale et donc de survenue de cancer ou de système de métastase ou de choses comme ça, quoi. Toutes les situations physiologiques qui favorisent en fait la survenue de cancer.
Nous avons entendu parler plutôt de fluorescence, à ne pas confondre avec phosphorescence. Quelle est donc la différence ?
Alors effectivement, on a l'impression, on dit souvent un stylo fluo ou un t-shirt fluo qu'on verrait dans le noir ou etc. Donc souvent quand on voit dans le noir et qu'on voit de la lumière apparaître d'un t-shirt, c'est effectivement pas de la fluorescence, c'est de la phosphorescence. Et c'est souvent en fait des phénomènes qui sont un peu différents de nature, on va dire, de nature physique au départ. La phosphorescence, c'est grosso modo des temps très très longs. C'est-à-dire que c'est des matériaux qui vont capter la lumière du jour, le jour, et qui vont rendre la lumière la nuit. Ça veut dire qu'il faut grosso modo que les temps où la molécule absorbe la lumière sous forme d'énergie et restitue l'énergie sous forme de lumière soient très très longs, puisque à l'échelle de la journée. Et on appelle ça de la phosphorescence parce que c'est pas le même mécanisme. C'est-à-dire que les molécules passent dans un état triplet au lieu de passer dans un état singulet, mais ça on en a un peu pas grand-chose à faire en fait. Et la fluorescence, c'est un phénomène qui, à cette échelle-là, est un phénomène extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'il se joue à l'échelle de la nanoseconde même. Donc c'est 10-9 secondes. Donc l'œil humain n'est pas capable, à part Steve Austin. Donc on peut pas voir en fait. Et c'est quand même les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que c'est des mécanismes qu'on appelle de luminescence. C'est-à-dire que c'est des mécanismes dans lesquels les molécules vont pouvoir capter de l'énergie de la lumière, c'est-à-dire que souvent on les excite avec de la lumière.
J'envoie de la lumière, mon groupe est clair comme un luminaire.
Les photons de la lumière vont exciter la matière, cette matière va passer à un état excité, et elle va se désexciter, revenir à son état fondamental en réémettant de l'énergie sous la forme de lumière. Et donc la fluorescence, c'est ça, mais la phosphorescence aussi, pas aux mêmes échelles de temps, mais la fluorescence, c'est ça, c'est j'envoie de la lumière et je récupère de la lumière. Et donc l'intérêt de la fluorescence, c'est qu'on va envoyer de la lumière bleue, par exemple, et puis on va récupérer de la lumière verte. Parce qu'évidemment, la lumière bleue est plus énergétique, la lumière verte moins énergétique, et quand on a un phénomène de fluorescence, on perd de l'énergie. si on gagnait de l'énergie, on aurait fait un moteur formidable et on n'aurait plus de problème avec le nucléaire en France.
Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité.
2,21 gigawatts !
Et on utilise cette propriété de la fluorescence depuis très longtemps, enfin depuis les années 70, je dirais même 80, en biologie, en particulier parce que c'est pas très invasif, le système. Envoyer de la lumière dans un échantillon vivant, ça ne le perturbe pas beaucoup, et on va pouvoir récupérer. Donc il suffit juste d'aller taguer ou d'aller marquer la protéine d'intérêt avec quelque chose qui fluoresce pour pouvoir l'observer avec de la lumière. Donc on envoie une lumière bleue, on récupère de la lumière verte. Et on fait ça sous un microscope pour aller regarder dans l'infiniment petit, dans, à l'échelle de la cellule, à l'échelle micrométrique. Ça permet de suivre les protéines dans la cellule. C'est, ce qu'il y a eu en plus, c'est qu'il y a eu la GFP, en fait.
De la quoi ?
Il y a toute une classe de protéines qui ont été découvertes grâce à des organismes marins, en fait. Et on appelle ça green fluorescent protein, red fluorescent protein, donc avec toutes les couleurs possibles. On en a de toutes sortes aujourd'hui. Mais en gros, c'est des protéines qui ont été isolées par des algues, ou des corails, et qui, ou des méduses, et que, en gros, quand on dirige un laser, une source lumineuse, en gros, elles peuvent émettre de la fluorescence dans la couleur souhaitée, donc vert, rouge, bleu.
Quel ravissant ballet, quel enchantement de forme et de couleur.
Une protéine qui devient fluorescente, une souris qui devient verte à la lumière noire. Comment tout cela est possible ?
Eh ben, tout ça, c'est des organismes génétiquement modifiés dans lesquels, en fait, on a tout simplement... Alors, ça, c'est ce qu'on fait, nous, dans nos expériences de microscopie. C'est qu'on prend la protéine d'intérêt et on fusionne à cette protéine d'intérêt la protéine fluorescente qui vient de la méduse, qui nous permet, en fait, de suivre cette protéine d'intérêt dans les échantillons. C'est ça qu'on fait. Ça, on le fait régulièrement. On le fait régulièrement pour caractériser, en fait, la localisation et de nos protéines.
Localisation en cours.
Pour nous, c'est juste un outil qu'on utilise dans nos organismes modèles. Alors, ça peut être la cellule en culture, ça peut être la mouche, ça peut être la souris, etc. Donc, la souris, effectivement. Mais pour nous, c'est complètement anodin. C'est-à-dire qu'on a des outils moléculaires pour pouvoir étiqueter la protéine d'intérêt avec cette protéine fluorescente et pour pouvoir l'exprimer dans un échantillon vivant. Et ensuite, on a des techniques de microscopie pour pouvoir regarder dans le petit, c'est-à-dire à l'échelle de la cellule subcellulaire, la localisation des protéines d'intérêt.
La transgénèse, c'est le fait d'isoler un gène avec un intérêt particulier dans un être vivant, de l'extraire, puis de l'incorporer dans l'embryon d'un autre être vivant. C'est comme ça qu'en prenant la protéine nommée luciférase, aussi appelée GFP, issue d'une méduse, puis en l'incorporant dans une cellule œuf de souris, elle-même incorporée dans l'utérus d'une mère porteuse, on obtient
une souris verte.
Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec la protéine Aurora A, avec des cellules mises en culture. Mais ça n'est pas là que réside l'originalité de cette recherche.
Nous, ce qu'on a fait en plus, effectivement, on a tagué cette protéine Aurora avec la GFP, mais en fait, ça, on n'est pas les premiers à l'avoir fait. Ça a été la protéine Aurora taguée avec la GFP, ça a été fait, je sais pas, ça a presque 10 ou 15 ans, je dirais, une dizaine d'années. C'est pas ça qui est original dans ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté non pas un seul tag, mais un deuxième tag. C'est-à-dire qu'on a utilisé un tag fluorescent, donc une protéine fluorescente verte et une protéine fluorescente rouge aux deux extrémités de la protéine Aurora.
Bon, vous suivez d'ailleurs ?
Et on a exprimé cette sonde fluorescente dans nos cellules, faite par un mécanisme de mesure des propriétés de fluorescence verte et rouge. On est capable de savoir si les deux tags sont proches ou éloignés. Et donc, en regardant si les tags sont proches ou éloignés, ça nous permet de caractériser la conformation de la protéine. Donc pas seulement de localiser la protéine, mais aussi de savoir si la protéine elle est dans une conformation complètement ouverte, avec les deux extrémités de la protéine très éloignées l'un de l'autre, de telle manière à ce qu'on ne mesure pas de fret, si on appelle ça du fret Forster résonance énergie transfert, mais ça c'est un peu anecdotique. Et si on ne mesure pas de fret, ben, c'est complètement ouvert et on... Nous, on a des techniques de microscopie pour savoir s'il y a du fret ou s'il n'y a pas de fret. Et si on mesure du fret, ça veut dire que les deux tags aux deux extrémités de la protéine sont très proches. Et s'ils sont très proches, tout simplement si on est dans une situation où il n'y a pas de fret versus une situation où il y a du fret, Ça veut dire que notre protéine, à l'intérieur de la cellule, elle change de conformation. On a relié ce changement de conformation avec l'activation de cette protéine, parce qu'on s'est rendu compte, on a mesuré ça de manière contrôlée in vitro, en dehors de la cellule, et on a caractérisé que quand la protéine Aurora était phosphorylée, elle était dans une conformation fermée, et quand elle n'était pas phosphorylée, elle était dans une conformation ouverte. Et on sait par ailleurs que quand elle n'est pas phosphorylée, elle n'est pas active, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle permet pas de phosphoryler ses substrats, et quand elle est phosphorylée, elle est active, elle phosphoryle ses substrats. Ce qui veut dire que du coup, en mesurant le fret, on mesure le changement de conformation et on mesure l'activation de la protéine.
Dans quelles applications cette fluorescence peut-elle être utilisée ?
Ça peut être, ça pourra être éventuellement, je ne pense pas tout de suite, mais dans un futur, on espère, proche, ça peut être utilisé comme un marqueur. En gros, on peut savoir dans des échantillons des patients si la protéine Aurora elle est active ou pas. Et surtout, elle peut être utilisée comme un outil de screening, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour tester potentiellement des nouveaux médicaments qui vont être utilisés et testés ensuite sur des patients pour savoir si le médicament il est efficace ou pas. En sachant si, voilà, si cette substance, on va pouvoir savoir si elle est vraiment spécifique d'Aurora ou pas. Donc ça peut être un outil avantageux pour la communauté.
Pas mal, non ? C'est français.
Ce qu'on a fait dans le travail qu'on a fait, parce que là, effectivement, c'est une perspective à notre travail. C'est-à-dire que nous, on a développé un biosenseur comme ça d'Aurora, et ce qu'on espère le plus, c'est pouvoir transférer notre biosenseur, que tous les chercheurs du monde entier puissent utiliser ce biosenseur dans leurs recherches et dans leurs systèmes particuliers. Et en particulier, on espère effectivement que ce biosenseur puisse devenir éventuellement un outil pour screener des nouvelles drogues qui viendraient jouer sur l'activité d'Aurora. Puisque par ailleurs, en fait, Aurora est une des cibles d'un certain nombre de molécules qui commencent à être utilisées pour traiter le cancer. C'est dans le scope. Mais ce qu'on a fait dans notre travail à nous, c'est qu'avec cet outil, on a été capable d'aller regarder l'activation de la protéine à des moments du cycle où la protéine n'avait jamais été regardée. C'est-à-dire que jusqu'ici, on caractérisait beaucoup l'activité et le rôle d'Aurora A en faisant de la biochimie sur des extraits cellulaires. C'est-à-dire qu'on prenait des quantités de cellules, on récupérait le jus de ces cellules, entre guillemets, on récupérait les protéines de ces cellules et on essayait de savoir comment était la protéine. Et on s'était rendu compte que la protéine, elle était Aurora, elle était fortement exprimée en entrée de mitose, en mitose, et puis après, sa quantité diminuait quand on sortait de mitose, et donc le dogme disait que grosso modo c'était actif en mitose, puis qu'en sortie de mitose c'était fini, ça avait plus de rôle. Et nous, avec notre outil, on a été capable de regarder la localisation, mais aussi l'activation, comme je vous ai expliqué, de la protéine à tous les stades de la division cellulaire, et donc au début de la division cellulaire, mais aussi en sortie de division cellulaire, dans une phase du cycle qui s'appelle la phase G1, qui est la phase en sortie de mitose, au moment où la cellule repasse de sa vie toute seule, quoi, hein. Les deux cellules filles redeviennent des cellules individuelles. Et avec notre outil, on s'est rendu compte que certes, il y avait moins de protéines Aurora à ce moment-là, mais il y en avait quand même. Elles étaient localisées majoritairement au centrosome, et en plus, ces protéines-là étaient sous la forme active. C'est-à-dire qu'on voyait ici que probablement elles étaient sous la forme active. Donc ça, c'est la première observation qu'on a faite. Et ensuite, on a essayé de caractériser si en phase G1, il y avait vraiment un rôle de cette protéine Aurora. Alors on a d'autres techniques de microscopie, on peut invalider l'expression de certaines protéines. Donc on a invalidé par exemple l'expression d'Aurora en phase G1, et on s'est rendu compte qu'il y avait un phénotype, c'est-à-dire que nos cellules étaient anormalement construites, c'est-à-dire que le réseau de microtubules était anormal dans ces cellules. Et donc on a découvert ici, grâce à notre outil, un nouveau rôle pour Aurora en G1. C'est-à-dire que Aurora en G1 a un rôle dans la construction du fuseau interphasique, c'est-à-dire à partir du centrosome, toujours ces microtubules, mais à la différence du fuseau mitotique, cette fois-ci il n'y a plus qu'un seul microtubule, Et les microtubules jouent le rôle de la charpente cellulaire, en fait. Hein. C'est une espèce de... C'est des tubes qui viennent organiser la cellule, à le cytoplasme de la cellule, viennent s'en positionner le noyau, viennent... Ça permet aussi, c'est un peu des autoroutes à l'intérieur de nos cellules pour faire du trafic à l'intérieur des cellules. Mais tout ça, en fait, c'est parce qu'on a eu un outil pour pouvoir regarder en G1, qu'on a eu un outil pour pouvoir voir la protéine et voir son activation, qu'on a découvert un nouveau rôle d'Aurora. Et donc c'est là-dessus que c'est là-dessus que nos recherches sont assez intéressantes, c'est-à-dire que on a la possibilité avec ce biosenseur d'aller regarder. Alors peut-être qu'on a raté des rôles d'Aurora. Et alors ça c'est un peu une nouveauté entre guillemets. C'est en fait c'est la biologie c'est vachement compliqué.
Non ça va.
Une protéine, elle a pas qu'un seul rôle. Une protéine, elle a plein de rôles. Plein de rôles différents. En particulier les protéines kinases, qui sont des protéines qui phosphorylent. Il y en a 550, je crois, en tout. Enfin, il y a une collection assez énorme de protéines kinases. Et en fait, chaque protéine kinase n'a pas qu'un seul rôle. Les protéines kinases sont probablement très multi-rôles, multifonctions. Donc il y a des fonctions pour la division, et puis ça se trouve, la même protéine va avoir une fonction tout à fait différente dans d'autres phénomènes cellulaires.
On n'est pas juste obligé à aller directement à la thérapie contre le cancer, mais on peut s'arrêter déjà à la découverte, c'est un peu ce que nous avons fait, à la découverte des rôles de cette protéine. Donc c'est une recherche plutôt fondamentale, c'est pas une recherche directement appliquée. Mais déjà, ça nous permet d'augmenter notre compréhension de mécanismes et fonctions de cette protéine. C'est qu'il y a déjà... une recherche, un type de recherche à part entière. Mais après, c'est vrai que le rôle d'Aurora est surtout lié à certains types de cancers, donc cancer du sein, cancer de l'ovaire. Donc l'application est plutôt là-dessus. On ne peut pas, au jour actuel, la relier d'une façon très spécifique à d'autres maladies.
Même si on est tout à fait intéressé par l'application de nos recherches, c'est quelquefois notre première motivation. Notre première motivation de chercheur, c'est de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire qu'on a, quelque chose devant nous. Alors là, on parle de la cellule et de la division de la cellule. Et en fait, ce qui nous fascine, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi il y a tant de protéines qui interviennent, qu'est-ce qu'elles font, quelle est leur régulation, pourquoi elles sont là, quel est leur rôle, etc. Et comment est-ce que finalement on arrive à chorégraphier comme ça tout un tas de structures, d'ADN, de chromosomes qui vont aller dans une cellule et pas dans l'autre, etc. Ça, c'est fascinant. Et donc, notre première motivation, c'est la compréhension du vivant. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, notre protéine et notre biosenseur, donc celui qui permet de regarder si la protéine est active ou pas active, elle est aussi tout à fait intéressante et tout à fait fascinante. C'est d'ailleurs pour ça que nos travaux-là retiennent de l'intérêt.
Mais le fait d'utiliser une protéine mutante n'inclut-il pas un risque dans le développement cellulaire à laquelle Aurora A participe ?
Notre protéine Aurora A, là, qu'on a taguée, qu'on a étiquetée à ses deux extrémités par une protéine fluorescente, on s'est rendu compte qu'elle avait exactement la même activité, ou de ce qu'on en connaît, de ce qu'on a pu mesurer, que la protéine sauvage.
Exercez-vous une activité professionnelle ?
Elle a exactement la même fonction que la protéine Aurora sauvage. Ça veut donc dire qu'on a maintenant des outils moléculaires pour pouvoir remplacer la protéine sauvage par cette protéine mutante qui serait notre biosenseur. Et donc, ça veut dire qu'on a un biosenseur qui remplace exactement la protéine sauvage. Donc, on va pouvoir exactement comprendre le rôle d'Aurora avec ce biosenseur en remplaçant la protéine sauvage par notre biosenseur dans nos organismes modèles. Et ça, c'est une vraie puissance de l'outil. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rajouter de la protéine qui serait une protéine modifiée. On remplace complètement la protéine. Et donc, on peut imaginer, alors c'est un peu comme le système de la souris verte, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer générer des organismes modèles, parce que nous, on n'est pas des apprentis sorciers, on ne fait pas encore des hommes mutants, on ne fait que des cellules mutantes, des trucs qui sont bien circonstanciés.
Ah, d'accord, oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui.
Tous ces organismes modèles, on peut très bien imaginer qu'on ait des cellules qui soient des cellules exactement identiques, sauf que la protéine Aurora serait une protéine biosenseur. Et donc du coup, on va pouvoir regarder au niveau endogène, sans avoir perturbé le système d'une certaine manière, l'activation de cette protéine dans le contexte cellulaire d'intérêt. Et ça, c'est vraiment une puissance de l'outil. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir remplacer la protéine sauvage avec notre biosenseur. Ça, c'est une puissance de l'outil et de l'approche qu'on a eue.
Voilà où la recherche nous mène, toujours plus loin. Comprendre le domaine du microscopique pour guérir un système entier. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir.
Le premier intérêt qui va être retenu de nos travaux, ça va être un premier intérêt tout à fait fondamental. C'est-à-dire que les prochains qui vont utiliser ce biosenseur, ça va être des chercheurs en recherche fondamentale qui, comme nous, sont intéressés ou passionnés par la compréhension du vivant et qui vont utiliser ce biosenseur pour essayer de comprendre comment est-ce qu'Aurora s'active dans leur modèle cellulaire, dans leur fonction cellulaire.
Résultat ? Ah ! Gros buzz !
C'était le Labomatique. Nous remercions chaleureusement Julia Bertolin et Marc Tramier pour leur accueil, leur explication et leur pédagogie. Le Labomatique est également disponible en réécoute sur www.c-lab.fr. On se quitte sur une citation de Pierre Joliot qui disait « La recherche comporte et comportera toujours une part importante d'activité créatrice ».
Le Labomatique,
l'émission scientifique